VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 29 décembre 2015. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Tout d'abord, les titres.
J-1 pour les élections présidentielles et législatives en Centrafrique.
La population doit aller librement et voter, faire un bon choix pour l'avenir du pays.
En Ouganda, début difficile des pourparlers de paix du Burundi.
La présence de l'opposition dans ces assises-là a provoqué une réaction farouche du côté du gouvernement du Burundi.
Au Burkina Faso, 20 soldats de l'ex-régiment présidentiel ont été arrêtés.
Lutte contre le groupe État islamique, Ramadi a été libéré par les forces irakiennes.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Les Centrafricains attendent d'aller aux urnes mercredi pour élire leur président et leurs députés. Dans une déclaration hier, la présidente de l'Autorité nationale des élections, Marie-Madeleine Couette-Hornet, a tenu à rassurer les Centrafricains, tant du pays que de l'étranger, quant à la disponibilité du matériel électoral dans leur lieu de vote.
L'Autorité nationale des élections s'est employée activement pour s'assurer que, partout, les Centrafricains puissent exercer librement leur droit de vote ce mercredi 30 décembre. J'ose espérer que les scrutins se dérouleront dans la quiétude et les résultats acceptés par tous, perdants comme gagnants. L'Autorité nationale des élections rassure de sa neutralité et de son engagement à respecter scrupuleusement toutes les obligations légales pour garantir la transparence et la crédibilité des opérations électorales. Je vous demande donc d'aller massivement dans les bureaux de vote pour apporter votre contribution à l'édification d'un Centrafrique nouveau.
Marie-Madeleine Couette-Hornet, présidente de l'Autorité nationale des élections de la République centrafricaine.
Début des pourparlers de paix entre le gouvernement et l'opposition du Burundi hier à Entebbe en Ouganda, dans une ambiance à couteau tiré. Victor Bourikouguiye, membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a immédiatement menacé de se retirer s'il apercevait des membres du coup d'État manqué de l'autre côté de la table. Yoweri Museveni, président ougandais et médiateur de la crise, a exhorté les participants à trouver une solution politique pour, selon ses termes, arrêter les souffrances du peuple. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Au Burkina Faso, une vingtaine de soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le RSP, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans un projet de libération du général putschiste Gilbert Diendéré. Selon l'AFP, ils ont été arrêtés au cours d'une réunion alors qu'ils planifiaient l'attaque de plusieurs casernes de la capitale pour semer la panique dans la ville et en profiter pour faire libérer leurs camarades et les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé.
Burkina toujours, le gouvernement a démissionné hier pour faire place à la nouvelle équipe de Roch Marc-Christian Kaboré, le président nouvellement élu, qui entre en fonction ce mardi à Ouagadougou. Le mandat du CNT, le Conseil national de la transition, le Parlement intérimaire, a également pris fin lundi, selon son président Chérif Sy.
Au Nigeria, deux attentats suicides ont été commis par des femmes kamikazes lundi matin sur un marché de la ville de Madagali. Des attentats qui ont fait au moins 30 morts. La ville de Madagali est régulièrement ciblée par Boko Haram, dont le groupe s'était emparé en août 2014, forçant les habitants à fuir vers Yola, la capitale de l'État de l'Adamawa. L'armée nigériane a depuis repris le contrôle de la ville.
Début aujourd'hui au Niger du contrôle du fichier électoral de la présidentielle par l'OIF. Quatre experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont arrivés hier à Niamey pour des opérations de vérification de ce fichier de 7,5 millions d'électeurs. Ce contrôle a été réclamé par l'opposition avant la présidentielle de février 2016.
Au Mali, le bureau de douane de Nioro a saisi 500 kilos de résine de cannabis dans un véhicule en route pour l'Algérie. Modibo Dembélé a joint le directeur des douanes de Kaye pour lui demander si le Mali était toujours une zone de transit dans le trafic des stupéfiants.
Je ne vais pas aller trop vite en conclusion, mais c'est une nouvelle route que nous sommes en train de découvrir par rapport à la résine de cannabis. Parce que la route connue, ce n'est pas la route du Mali. La résine n'est pas destinée à la consommation locale. Donc, c'est un produit, pas de toute évidence, qui est en transit sur l'Europe. Donc, c'est une nouvelle route. Les fraudeurs, ils profitent de toutes les situations. Vous savez qu'il y a un courant de trafic aujourd'hui entre le Maroc et notre pays. Donc, les gens profitent de toutes les opportunités. Il faut renforcer la formation. Et nous avons bénéficié de beaucoup dans ce domaine de la coopération française. Il faut continuer, tout simplement.
Dans ce cas, quel peut être l'apport des populations civiles?
Ça, c'est la vigilance qui a travaillé. Mais au-delà de la vigilance, il faut le renseignement dans la lutte contre les produits illicites. Et le renseignement, on peut l'exploiter avec la population. L'apport de la population, c'est vraiment de rapprocher les services de lutte contre les produits illicites, donner les informations qu'ils détiennent par rapport à des gestes et des faits qui leur paraissent bizarres, tout simplement.
Des incendies au Cap en Afrique du Sud ont dévasté des centaines de cahutes dans des quartiers défavorisés. 9 personnes sont mortes et 1500 familles ont perdu leur habitation. Les incendies de bidonvilles sont malheureusement fréquents en Afrique du Sud.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé hier que l'Iran avait accompli l'une des étapes les plus importantes prévues dans l'accord sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, Téhéran a transféré lundi de l'uranium faiblement enrichi vers la Russie, conformément à l'accord signé en juillet à Vienne avec les grandes puissances. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon M. Kerry, ce transfert porte sur un peu plus de 11 tonnes de matériaux et comprend la totalité de l'uranium enrichi à 20% qui n'avait pas encore été assemblé sous forme de plaques de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran. Moscou a confirmé la nouvelle, dit l'AFP, tout comme le chef du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi. Pour rappel, l'Iran s'est engagé à ne pas détenir plus de 300 kilos de ce matériau lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Vienne. Cet accord prévoit la limitation d'une partie de ce programme, en particulier l'enrichissement d'uranium sur une période de 10 à 15 ans. Ces limitations ne concernent pas le développement du parc nucléaire civil iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera lorsque l'Iran aura rempli toutes ses obligations à la matière, ce qui devait permettre la levée progressive des sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres pays.
Les forces irakiennes ont confirmé hier soir à la télévision d'État la libération de la ville de Ramadi aux mains de Daesh depuis juin 2014. Washington, par la voix de son secrétaire d'État, a salué la reprise de Ramadi. Les États-Unis et la coalition internationale qui combattent le groupe État islamique en Irak et en Syrie ont activement contribué à la libération, notamment grâce à un important appui aérien.
En Égypte, la police a arrêté hier 4 leaders du mouvement interdit du 6 avril, qui fut à la pointe de la révolte populaire de 2011, et les a placés en détention préventive sous l'accusation d'incitation à la violence, selon une source judiciaire. Cette organisation de jeunes militants laïcs et de gauche, chef de file de la contestation qui chassa le président Hosni Moubarak du pouvoir en janvier 2011, a été interdit par la justice en 2014 et plusieurs de ses dirigeants sont déjà derrière les barreaux.
En Syrie, plus de 450 combattants et civils ont été évacués hier de 3 localités dans le cadre d'un rare et complexe accord d'échange entre le régime et les rebelles, conclu sous l'égide de l'ONU. Dans le même temps, des attentats ont visé un quartier favorable au président Bachar al-Assad à Homs, faisant 32 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Plus de 4000 migrants ont été secourus dans le canal de Sicile durant le week-end de Noël lors de nombreuses opérations coordonnées par la marine militaire et les gardes-côtes italiens. La grande majorité de ces migrants sont originaires d'Afrique subsaharienne, mais d'autres sont marocains, tunisiens ou encore égyptiens.
Ici aux États-Unis, un jury de Cleveland dans l'État de l'Ohio a décidé de ne pas inculper un policier blanc ayant abattu en novembre 2014 Tamir Rice, un garçon africain-américain de 12 ans qui tenait un pistolet factice. Des détails avec Eddie Isango.
Les jurés n'ont trouvé aucune preuve des conduites criminelles de la part du policier, a annoncé lundi les procureurs de Cleveland, Tim McGinty, clôturant ainsi une année des manifestations d'activistes et des simples citoyens choqués par la vidéo de l'incident. Celle-ci montre les policiers Timothy Lohman tirant sur l'enfant quelques secondes seulement après son arrivée sur les lieux en compagnie d'un collègue à bord de leur voiture des patrouilles. La police avait été alertée sur la présence à cet endroit d'un homme portant une arme à feu. Les autorités découvriront par la suite que ce que le policier a pris pour un pistolet était en fait un jouet. Elles ont aussi constaté que l'embout orange permettant d'identifier les pistolets factices comme étant un jouet avait été ôté, lui donnant l'apparence d'une arme réelle. Des enquêteurs indépendants ont estimé que tout policier raisonnable aurait pris les jouets pour une arme à feu.
Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec John Linden.
Le Zimbabwe a retardé pour le début du mois prochain le paiement des salaires de décembre pour la plupart des travailleurs du secteur public et n'a pas payé les primes annuelles, signe d'une crise de liquidité qui a entraîné des menaces de grève des médecins et des enseignants. Ces derniers exigent le paiement des salaires et des primes avant le 31 décembre. Le Zimbabwe dépense plus de 80% de son budget sur les salaires, principalement pour l'armée, la police, les enseignants et les infirmiers. Seuls les soldats ont été payés ce mois. Au Cameroun, l'UCB, l'Union des brasseries du Cameroun, entreprise créée par le milliardaire camerounais Joseph Kadji Defosso, aujourd'hui âgé de 91 ans, est bien décidé à passer à l'offensive après avoir augmenté son capital de 2,9 milliards à 25 milliards de francs CFA. L'UCB veut à présent investir dans de nouveaux équipements afin de mieux faire face à la concurrence qu'on dit rude dans le secteur brassicole. L'entreprise française du luxe Cartier a scellé mi-décembre un nouvel accord de distribution avec Yous, un espace d'horlogerie ouvert dans la galerie marchande du Sofitel Ivoire d'Abidjan. Les montres Cartier étaient déjà vendues dans la capitale économique ivoirienne par le bijoutier A. Constant, qui compte 3 magasins et distribue également des marques comme Rolex, entre autres.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John. Et maintenant, place à notre page sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Claire.
Paulo Duarte reprend la tête des étalons.
Le Portugais a été nommé ce lundi nouveau sélectionneur du Burkina Faso. C'est à Sangaré qui a annoncé l'information, n'a cependant pas donné de précision sur la durée du contrat de cette vieille connaissance de la sélection burkinabé, limogé en août dernier du club tunisien du CS Sfaxien. Paulo Duarte, âgé de 46 ans, a déjà dirigé le Burkina Faso de 2007 à 2012 et remplace à la tête des étalons l'Allemand Gernot Rohr, démissionnaire à peine un an après sa nomination. Duarte a également exercé au Gabon comme sélectionneur de 2012 à 2013.
En football, le sélectionneur de l'Angola a été limogé.
Oui, Romeu Filemon a été démis de ses fonctions pour absence injustifiée au lendemain de Noël, a indiqué la fédération dans un communiqué. Le 23 décembre, Romeu Filemon avait publiquement accusé la fédération de ne lui avoir pas versé son salaire depuis 8 mois. La sélection nationale, qui devait partir samedi 26 décembre en stage en Afrique du Sud, a retardé son départ au 30 décembre. L'Angola prépare le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se disputera du 16 janvier au 7 février au Rwanda. Deux techniciens angolais, José Kibamba et André Makanga, ont été nommés pour prendre en main la préparation de la sélection à titre provisoire.
En Espagne, le tribunal du sport rejette le recours du Real, éliminé de la Coupe du Roi.
Oui, le tribunal du sport espagnol a rejeté ce lundi le recours du Real de Madrid contre son élimination de la Coupe du Roi pour avoir aligné un joueur suspendu lors d'un match remporté le 2 décembre contre le Cadix CF. Dans un communiqué, le tribunal administratif du sport annonce rejeter le recours présenté par le club merengue et précise que la décision est définitive. Le club respecte mais ne partage pas cette résolution du tribunal, a réagi peu après le club dans un bref communiqué dans lequel il annonce son intention de recourir à la justice ordinaire et à d'autres possibilités légales qui sont actuellement à l'étude. Et Claire, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
11 matchs se sont disputés hier soir, Bagassi. L'affiche qu'il ne fallait pas manquer, les Indiana Pacers ont battu les Hawks d'Atlanta 93 à 87. Nicola Batum et les Charlotte Hornets ont logiquement gagné face aux Los Angeles Lakers 108 à 98. Orlando Magic, l'équipe d'Orlando s'est imposée 104 à 89 face aux New Orleans, aux Pelicans de New Orleans. Enfin, Tony Parker et Boris Dio des San Antonio Spurs ont gagné contre les Timberwolves du Minnesota, 101 à 95. Il me reste quelques secondes pour vous dire que Chicago a battu Toronto, 104 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Retour sur le coup d'envoi hier à Entebbe, en Ouganda, des efforts visant à relancer le dialogue politique au Burundi. Les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés autour du médiateur Yoweri Museveni. Chaque camp est pratiquement resté sur sa position. La délégation gouvernementale a exclu toute discussion avec le Sénared, la coalition de partis politiques et de groupes de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Timothée Donangmaï a joint à Bruxelles Frédéric Banvuginyuvira, secrétaire général du Sénared.
Ce qu'il faut enfin noter au cours de cette première journée, c'est d'abord les discours importants de l'Union africaine, du représentant de l'East African Community, du représentant de l'Union européenne, du représentant des Nations unies. Deuxième élément, c'est en réalité la présence du gouvernement du Burundi et aussi la présence de l'opposition et surtout le contenu du discours du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni. Alors, ce qu'il faut noter, peut-être particulièrement, c'est la présence de l'opposition dans ces assises-là, ce qui a provoqué en réalité une réaction farouche du côté du gouvernement du Burundi. Le gouvernement du Burundi a dit qu'il a été invité à ces négociations une organisation qui n'est pas légale, ça veut dire le SNARED. Alors que, justement, le SNARED est composé par des partis politiques de l'opposition.
Le gouvernement dit qu'il est hors de question de négocier avec les putschistes et assimile le SNARED aux putschistes.
Voilà, justement, c'est cela la contradiction. Et ces gens-là, activement, ils essaient de coller des dossiers à des personnalités pour qu'ils disent, voilà, ils ne venaient pas parce que tel. En fait, c'est de l'échappatoire pour nous. C'est parce qu'ils n'ont pas quoi dire. C'est ça, pour nous, là, ce qu'il faut conclure. Pour une telle réaction, parce que en réalité, quand vous avez décidé de quitter Bujumbura pour rencontrer les autres, vous saviez qui était là et des gens qui vous attendaient là-bas. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est constater que la réaction du gouvernement de Bujumbura, c'est la même réaction qu'ils avaient affichée au mois de juin et juillet 2015. C'est la même réaction qu'ils continuent à afficher aujourd'hui.
Comment renouer le dialogue dans ces cas?
J'ai l'impression que le gouvernement de Bujumbura n'entend pas parler du dialogue. En fait, ce sont des gens qui ont évolué dans l'usage de la force. Or, l'usage de la force, aujourd'hui, n'a pas de mise. Ça veut dire ou bien ils discutent ou bien ils partent. C'est ce que ça signifie. Et le monde devra se liguer pour dire, monsieur, on ne peut pas accepter que tu continues à tuer les Burundais, les Burundaises, parce que ce sont les citoyens du monde. Donc le monde doit se liguer contre justement tel comportement. Ou bien ils dialoguent, ou bien ils décident de partir.
Frédéric Banvuginyuvira, secrétaire général du Sénared, il était joint à Bruxelles. Direction la Centrafrique, à la veille du scrutin présidentiel. Les patrouilles des forces internationales et centrafricaines ont été renforcées car la sécurité reste un des défis majeurs de ces élections. Notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso, fait le point avec le ministre de la Sécurité, Dominique Saïd Pandganji, qui revient sur l'importance d'avoir décalé le scrutin de quelques jours supplémentaires.
Un glissement de 3-4 jours nous permet d'augmenter l'effectif des personnels à redéployer en province. Les postes ou bien les bureaux de vote de Bangui, augmenter leur effectif en personnel et en matériel, revoir un peu quelques instructions pour que ça se déroule très bien et nous donner également l'occasion, toujours sur le plan sécuritaire, de toucher la plus grande partie de la population par des communiqués à la sensibilisation, au calme, à l'esprit civique, patriotique, pour que ces élections groupées, qui sont en fait les élections de la dernière chance, puissent être des élections libres, transparentes, non contestées, ce qui revient à dire que la population doit aller librement et voter, faire un bon choix pour l'avenir du pays.
Est-ce que pour ce nouveau vote, il sera possible à la population du PK5 d'aller voter sereinement ?
Le kilomètre 5 au jour d'aujourd'hui n'est plus le kilomètre 5 de l'avant 13 décembre. C'est vrai, c'est une partie de notre capitale qui revient de très loin. Il y a des raisons pourquoi cela s'est passé comme ça. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est une population à féliciter. Et donc, si le calme est revenu, s'il y a cet engouement de la population à aller librement aux urnes, si cette même population s'est engagée à se démarquer de ces bandits, de ces criminels qui sont nommément connus et recherchés, voilà un acte civique et patriotique à saluer. Et donc, ça nous amène à avoir moins de craintes, moins de soucis pour la gestion sécuritaire dans le 7e arrondissement des scrutins groupés du 30 prochain.
Donc partout sur le territoire centrafricain, le mercredi 30 décembre, les citoyens pourront aller voter sereinement ?
Effectivement, sereinement et positivement. Dans la mesure où les derniers recadrages, les derniers retards que l'Agence nationale des élections avait connus du fait de certains matériels sensibles qui venaient d'arriver, et puis parlons un peu de la formation, tout est pris en compte pour que toute la population se tiennent prêtes à aller exprimer librement son suffrage.
Dominique Saïd Pandjigi, ministre centrafricain de la Sécurité.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Burkina Faso, les autorités de la transition continuent leur bilan. Après le Premier ministre, les parlementaires du Conseil national de la transition ont également présenté leur démission. Des détails avec notre correspondant Issa Napon à Ouagadougou.
Tour à tour, les responsables des différents groupes parlementaires se sont exprimés chacun pour rendre hommage au peuple burkinabé, expliquer le contour de leur action au sein de ce Parlement transitoire et dire au revoir au moment où la session unique du Parlement, ouverte au lendemain de l'instauration de la transition, se referme pour leur permettre de passer la main aux députés nouvellement élus. Pour le président de l'un de ces groupes parlementaires, en l'occurrence le groupe Organisation de la Société Civile, c'était une expérience unique. Hervé Ouattara.
Vous savez, nous étions tous nouveaux dans le travail législatif quand nous sommes arrivés. En une année, nous avons pu voter plus d'une centaine de lois. C'est une expérience énorme. La satisfaction que nous avons, c'est la traduction des aspirations du peuple dans ces lois pour un Burkina nouveau. Peut-être que je regrette qu'on n'ait pas pu aller à la 5e République.
Ensemble, les différents groupes parlementaires ont reconnu le travail abattu par le président du CNT le long de la transition et surtout son leadership lors du putsch manqué du 17 septembre dernier. L'honorable Chérif Sy qui a joué la carte de la modestie.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'ensemble des députés ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour examiner et adopter des lois qui doivent normalement impacter sur la vie de nos populations. Nous avons accompli notre mission. Maintenant, elle était positive, négative, etc. Cette appréciation ne nous appartient pas. Nous avons accompli notre mission en toute honnêteté, en toute bonne foi, en donnant plus que le meilleur de nous-mêmes.
Le président du Conseil national de la transition a fait part dans son adresse de la foi qu'il continue de porter au fait que plus rien ne sera comme avant, en dépit des vœux de certains contempteurs qui ont travaillé sans succès, selon lui, à saper leur travail. Un sacerdoce qui les a vu voter 110 lois et surtout verrouiller l'article 37 pour éviter, rappelle le président Chérif Sy, que des aventuriers ne soient mus par des velléités de pouvoir à vie aux conséquences désastreuses encore dans ce pays. Dans une ambiance empreinte d'émotion, les députés, dont certains émus aux larmes, ont chanté le ditanier, l'hymne national, à l'unisson et comme il fallait s'y attendre, une minute de silence, la dernière de la transition sans doute, a été observée pour la mémoire des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 17 septembre 2015 afin de sceller ce pacte de renouveau démocratique en marche avant de remettre définitivement le tablier aux nouvelles autorités élues. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
L'année 2015 a été marquante pour la Guinée, notamment en raison du virus Ebola. Une année qui marque également la réélection du président Alpha Condé. Rétrospective donc de cette année 2015 en Guinée avec notre correspondant Zakaria Camara.
2015 démarre en Guinée par des mouvements sociaux. Une grève illimitée est lancée le 5 janvier, mais prend fin quelques jours après les négociations entre le gouvernement guinéen et 6 centrales syndicales qui obtiennent une augmentation progressive des salaires. Au même moment, l'opposition guinéenne reprend ses manifestations et menace. Le 7 janvier, les opposants organisent une marche dans la capitale. Des heurts éclatent. Le chef de file de l'opposition annonce une série de manifestations.
Nous allons exiger que nos droits soient respectés, que les règles et les principes démocratiques soient respectés, que les droits humains soient respectés. Et nous allons nous mobiliser pour chasser Alpha Condé.
Les partis politiques réunis au sein de l'opposition républicaine demandent la recomposition des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Sinon, nous exigerons le départ d'Alpha Condé, avait menacé Sidibé Diallo, chef de file de l'opposition. Mais le président guinéen, lui, faisait de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola l'une de ses priorités. Plus de 1500 cas de décès sont à enregistrer. L'économie est touchée. Une énorme perte pour le gouvernement. Faisait remarquer Sidafa Doumbouya, analyste économique.
La plupart des expatriés, notamment les sous-traitants dans le secteur minier, ont, sur recommandation de leur autorité de tutelle, ont décidé de se retirer jusqu'à la fin de la crise, ce qui a provoqué une baisse de la production minière. Et au niveau du secteur agricole, on sait qu'Ebola a été déclaré pour la première fois en Guinée forestière, la première région agricole.
Autre conséquence de l'épidémie, toutes les rencontres de l'équipe nationale de football sont organisées ailleurs. Les élèves et étudiants, eux, ne reprendront les cours qu'après plusieurs mois de retard. Début mars, deux vaccins contre le virus Ebola sont testés à Conakry, alors que près de 3000 personnes sont contaminées et plus de 2000 décédées. Quelques jours après, la politique reprend tout son droit dans l'actualité. Le 10 mars, la Commission électorale nationale indépendante annonce l'élection présidentielle pour le 11 octobre et les communales à la fin du premier trimestre de 2016. Le 11 avril, plusieurs personnes sont blessées, dont certaines par balle dans une manifestation de l'opposition. Le président Condé s'implique et confie au premier ministre l'ouverture du dialogue politique interguinéen. L'opposition veut faire annuler le chronogramme de la CENI. En attendant l'issue du dialogue, l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, se déclare candidat à la présidentielle. Il est inculpé en juillet dans les tueries du 28 septembre 2009. Août 2015, Conakry est sous une forte pluie. Des dossiers de candidature commencent à arriver à la Cour constitutionnelle. Le 20, un accord politique est obtenu à Conakry. Un document est paraphé par la mouvance présidentielle et l'opposition. 8 candidats, dont le président sortant, partent le 10 septembre à la conquête des électeurs. Le 11 octobre, 6 millions d'électeurs ont été appelés à voter. Le scrutin se déroule dans le calme. Alpha Condé est réélu pour un second mandat dès le premier tour. Arrivé deuxième, son adversaire, Sidibé Diallo, ne reconnaît pas les résultats. Condé prête serment le 14 décembre devant 13 chefs d'État et plusieurs délégations. Le président réélu promet des surprises après la fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le 24 décembre, il accorde une remise de peine à 171 détenus, dont Amadou Ouriba, premier vice-président de l'UFDG, principal parti politique de l'opposition guinéenne. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. Charles Hall était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook, bien sûr. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.